Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtori.
Oméga, bonsoir, bienvenue au journal dont voici les titres. Il y a un an, Inata, le 14 novembre 2021, 57 personnes, dont 53 gendarmes, sont tombées dans l'attaque contre leur détachement à Inata dans le Soum. La gendarmerie nationale s'en souvient. Et le chef de l'État veut tenir un langage de vérité à l'ensemble de la société, responsable selon lui de la situation sécuritaire dégradée. Le Burkina a presque perdu son territoire, a-t-il signifié face aux partis politiques et aux organisations de la société civile. À propos de cette sortie, Aboubacar Sanou du CDP estime que le chef de l'État a mis chacun face à ses responsabilités. Clément Sawadogo du MPP apprécie le ton du capitaine mais estime qu'il faut encore plus d'engagement de la part de tous. On en sait plus dans ce journal. Madame, messieurs, voici donc pour la une de ce journal à développer dans un instant. Merci de nous avoir rejoints pour l'édition du soir. Bienvenue aux infos. C'est un macabre anniversaire qui ouvre ce journal. Nous sommes le 14 novembre et il y a un an, 53 gendarmes et 4 civils tombaient à Inata, dans le Soum, région du Sahel. Le détachement de la localité a été la cible d'une attaque terroriste qui a également fait des dizaines de blessés et de portés disparus. Ce 14 novembre donc, la gendarmerie nationale a rendu hommage à tous ses soldats ainsi qu'à tous ceux qui ont été victimes du terrorisme sous le drapeau national. Une minute de silence a été observée ce matin à 11h dans toutes les unités et sous-unités de la gendarmerie, selon un communiqué publié cet après-midi. Une première pierre a été également posée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrard Somda, pour la construction d'un monument en hommage aux héros de la gendarmerie nationale. À propos du drame d'Inata, des questionnements demeurent sur les circonstances de survenue de l'attaque. Un rapport avait été demandé par le chef de l'État de l'époque, Roch Kabore. La première version a été rejetée, puis une deuxième version a été remise au président du Faso. Selon l'ancien chef de l'État, Polari Damiba, le document a été transmis à la justice. À ce jour, pas encore de nouvelles, mais en tout cas plusieurs soldats manquent encore à l'appel et plusieurs portés disparus donc depuis un an. Sur cette question de la lutte contre le terrorisme, le chef de l'État opte pour la transparence. Il a rencontré la semaine dernière les hommes politiques et les responsables d'organisations de la société civile. Et en tant que militaire, il dit reconnaître la responsabilité de l'armée et il appelle chacun à une introspection profonde. Il a en outre exhorté les Burkinabés à plus d'empathie envers les populations en proie au terrorisme. Des populations que le capitaine Ibrahim Traoré a eu l'occasion de rencontrer, que ce soit dans la région du Sahel ou dans la région de l'Est. On écoute un extrait de ses propos.
C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaire, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée, elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est de la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre.
Un extrait donc des propos du chef de l'État dans une rencontre donc face aux responsables de partis politiques et d'organisations de la société civile. Et des réactions à présent, le représentant du mouvement du peuple pour le progrès MPP, l'ex-parti au pouvoir, se dit satisfait de cette rencontre avec le chef de l'État. Et selon lui, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a tenu un discours franc et c'est un appel à plus d'engagement de tous les acteurs. Selon Clément Sawadogo qu'on écoute, il est au micro de Denis Ungrana.
La tenue de cette rencontre est une très bonne initiative prise par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a peint un tableau très préoccupant de la situation sécuritaire au plan national. Quand on regarde l'emprise des zones qui sont affectées par le péril terroriste, effectivement, ça donne la chair de poule. Et le président a été très très clair, il a parlé un langage de vérité. Il n'a pas joué à ce jeu de camouflage la réalité pour tenter de faire croire qu'on fait des avancées, comme autrefois on le faisait. Là, je fais allusion à ce que nous avions vécu dans les mois passés, où on parlait d'une montée en puissance de l'armée, alors même que la situation se dégradait de jour en jour. C'est vrai que nos combattants, ils sont sur le terrain et nous devons les encourager. Et nous devons aussi les féliciter pour les victoires qu'ils remportent. Mais le péril est tel qu'il faut encore plus d'engagement et d'acteurs sur le terrain. C'est pourquoi je pense que le président a très bien fait d'adopter ce ton. Il a aussi évoqué la question de la responsabilité. La responsabilité des générations successives qui ont gouverné ce pays. Et le président a fait un appel à l'engagement et à la solidarité de tous. Je pense que ça aussi, c'est de bon ton. Et en tant que premier responsable de ce pays, il se doit de mobiliser la nation tout entière pour pouvoir venir à bout de ce fléau-là.
Clément Sawadogo donc au micro de Denis Zungrana. Et c'est une première, selon Aboubakar Sanou, une première pour un président en exercice de rencontrer les partis politiques et organisations de la société civile pour dépeindre la situation et mettre surtout chacun devant sa responsabilité. Aboubakar Sanou qu'on écoute, il est interrogé par Bernabé Kablé.
C'était une première pour beaucoup de personnes qu'un chef d'État vous convie et vous présente une situation pas très reluisante donc de votre pays et que surtout chacun soit interpellé donc et mis devant les faits accomplis et donc faire appel à la conscience individuelle et collective de chacun pour que dorénavant donc chacun puisse savoir où aller. Pour nous, c'était vraiment une occasion d'une véritable introspection, d'une remise en cause fondamentale de nous-mêmes et de nos actions. Également, c'était comme si nous étions dans un cimetière ou dans une cathédrale, un silence de mort. Et donc, c'est pour dire que l'exposé de la situation a vraiment marqué donc tous ceux qui étaient présents. Et nous allons croire donc que ça marque donc un nouveau départ pour donc un engagement beaucoup plus patriotique donc de tous nos concitoyens et surtout donc de ceux qui étaient présents parce que qu'on le veut ou pas, ce sont donc des moteurs donc, de notre société, des moteurs donc, de notre pays. Et donc, une prise de conscience de leur part, jusqu'à un certain niveau, nous pensons que cela pourra impacter et positivement donc, tous les autres segments de notre société.
Il est important de rappeler que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avait également rencontré les partis politiques après l'avènement du MPSR 1. Ce présent exposé de la situation, présenté donc par le capitaine Ibrahim Traoré, a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Pour Aboubakar Sanou, qui a participé à la rencontre, l'intervention du capitaine Ibrahim Traoré a marqué tous ceux qui étaient présents, pas seulement ceux qui ont vu la vidéo après. On écoute cette réaction.
Et plus souvent, la situation sécuritaire se discutait apparemment donc, dans certains milieux et que nous nous considérons donc comme les milieux des initiés. Mais cette fois-ci, le débat était ouvert et devant tout le monde. Chacun donc devait reconnaître sa responsabilité, assumer sa part de responsabilité. Nous, au CDP, nous avons géré ce pays pendant près d'une trentaine d'années. Donc nous devons également reconnaître notre part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé, dans tout ce qui se passe. Nous devons l'assumer et nous devons réitérer notre demande de pardon donc au peuple burkinabé pour tout ce qui devait être fait n'a pas été fait, pour tout ce qui a été mal fait, pour tout ce qui a été insuffisamment fait, et également pour tous les torts donc au nom de la gestion du pays, donc certains acteurs qui portaient donc la casquette de ces partis donc ont eu à causer à des Burkinabés. Vraiment, c'est une occasion d'une remise en cause, d'une repentance, d'une introspection. Et nous interpellons donc tous les acteurs, en commençant par nos militants. Le peuple burkinabé, donc, effectivement, a communié avec le président Ibrahim Traoré. Et donc, à ce que nous puissions, ensemble, et marquer donc un nouveau départ.
On prend la direction maintenant du Parlement. Après son installation vendredi dernier, l'Assemblée législative de transition a examiné et adopté ce lundi son règlement intérieur, lequel règlement va régir le fonctionnement de la nouvelle législature issue des travaux de la commission ad hoc mise en place le jour même de la validation du mandat des députés. Ce dispositif a été voté à l'unanimité par les 69 représentants parlementaires présents à cette session. On retient que cette fois-ci, les députés n'auront pas de salaire, mais percevront des indemnités de session. La séance plénière était donc consacrée à la présentation et à l'examen du rapport de la commission ad hoc chargée de l'élaboration du règlement et au débat général. Jacob Compaoré et Yagouba Wilio pour le compte-rendu.
Contrairement à la législature précédente, ces députés ne percevront pas de salaire au cours de leur mandat. C'est l'une des dispositions du règlement intérieur qui a été adoptée. Ce règlement intérieur de l'Assemblée législative de transition est constitué de 173 articles répartis en 5 grands titres. Tous ces articles ont été adoptés l'un après l'autre à l'unanimité des 69 députés présents à cette séance plénière et comportent des innovations. Yves Kafando, président de la commission ad hoc chargée de l'élaboration du règlement.
L'innovation majeure, c'est la gratuité. Parce que l'ancienne législature, le député recevait un salaire. Cette fois-ci, dans le règlement intérieur, la notion de gratuité est revenue, comme elle a été reprise depuis les assises, internée dans l'achat de la transition.
Cette nouvelle assemblée aura à son sein 5 commissions conformément aux recommandations de la charte adoptée lors des assises nationales. Yves Kafando, président de la commission ad hoc chargée de l'élaboration du règlement.
Et les 5 commissions, c'est donc la commission en charge des finances, la commission en charge des droits humains, notamment la commission des lois, comme on l'appelle, la commission en charge du genre, la commission en charge du développement durable et enfin la commission en charge de la sécurité et des affaires étrangères, c'est-à-dire la diplomatie parlementaire. Voilà enfin les 5 commissions qui reviennent dans ce règlement intérieur.
La commission ad hoc chargée de l'élaboration du dit règlement est composée de 11 députés regroupant toutes les composantes de l'Assemblée législative de transition et 6 techniciens de l'administration parlementaire. Le document sera transmis au Conseil constitutionnel pour la vérification de sa conformité avec la Constitution et la charte de la transition avant son application.
Merci à Jacob Compaoré et à Yacouba Wilio pour ce compte-rendu. On parle maintenant d'un autre sujet qui a fait réagir des internautes scandalisés. On découvert dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux la destruction de véhicules de type 4x4 sur le site minier de Perkoa dans la province du Sangui, région du centre-ouest. Selon des sources au sein de la mine à Omega, il s'agit de véhicules impropres à la circulation. Lamine Traoré nous donne plus de détails ici.
Les véhicules qui ont été détruits, il s'agit des véhicules impropres à la circulation et appartenant à Burncat, une société qui sous-traite à Nantou Mining, la société qui exploitait la mine de zinc de Perkoa. Selon une source proche de Nantou Mining à Omega Media, les véhicules sont restés immergés pendant longtemps lors des inondations. Notre source poursuit que Burncat, qui a même d'autres sites à travers le pays, n'a pas voulu envoyer ses véhicules sur ces sites au regard de leur vétusté. La source de Omega explique que sachant que ces véhicules sont impropres à la circulation, la société Burncat ne peut pas non plus mettre les gens à risque en les cédant ou en les donnant. Notre source, qui a bien voulu rester sous anonymat, a indiqué que la société Burncat a enlevé ce qui était bon et le reste, elle s'est assurée que la carcasse est aplatie. Notre source a été claire, la société Burncat ne pouvait en aucun cas donner ses véhicules à qui que ce soit, car c'est une question de responsabilité. Si plus tard un accident survient, on traiterait la mine d'irresponsable d'avoir fait ceci ou cela, a-t-elle affirmé. La source poursuit que sur un site minier, il y a une obligation de réhabiliter le site avant de le remettre à l'état. Rien ne doit en principe rester sur le site, a-t-elle fait savoir. Un communiqué du ministère des Mines devrait être publié dans les prochaines heures, selon les informations de Omega Media.
Des détails donc de Lamine Traoré. Le 16 avril 2022, 16 avril dernier donc, 8 mineurs dont 6 Burkinabés, un Tanzanien et un Zambien avaient disparu dans cette mine souterraine de Perkwa dans la province du Sangui, dans le centre-ouest. Après 66 jours de recherche, tous les mineurs ont été retrouvés morts. En septembre dernier, la mine a annoncé la fin de ses activités et sa fermeture. Le même mois, le directeur de la mine de zinc de Perkwa, Hein Frey, a été déclaré coupable pour homicide involontaire et condamné à 24 mois de prison avec sursis et une amende de 2 millions de francs CFA. Le deuxième accusé, Daryl Christensen, le responsable des opérations de Birnekut, une société de sous-traitance à la mine de Perkwa, a lui été déclaré coupable pour complicité d'homicide involontaire et condamné à 12 mois de prison avec sursis et une amende de 1 million de francs CFA. Et concernant cette affaire, une délégation gouvernementale s'est rendue sur le site ce lundi. On y reviendra certainement dans d'autres éditions. Et puis, le ministère de la Santé a annoncé samedi des investigations sur les circonstances du décès d'une patiente au centre hospitalier universitaire de Tengandogo. En attendant les résultats de cette enquête, le ministère de la Santé a démenti la version relayée sur les réseaux sociaux et qui fait état de ce que la patiente serait tombée de son lit. Une sage-femme détaille, une aide-soignante, une fille de salle et un vigile du centre hospitalier de Tengandogo ont été agressés par arme blanche par un accompagnateur d'une patiente décédée, explique le ministère de la Santé, qui ajoute que 3 de ses 4 agents grièvement blessés sont actuellement pris en charge par les équipes du CHU de Tengandogo. Le ministre Robert Lucien Kargougou a dans ce communiqué de presse condamné fermement cet acte inacceptable de violence. À présent, nous allons à la revue de presse 10 jours après la visite d'amitié et de travail effectuée à Bamako, au Mali, par le président du Faso, le capitaine Traoré. Une délégation malienne s'est rendue dans la capitale burkinabé dans la matinée du 12 novembre dernier. Et cette visite fait la une des parutions du jour. À l'international, le vieux volcan de l'insécurité dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Nord Kivu, est de nouveau en ébullition. Et nos éditorialistes en parlent. La revue de presse est assurée aujourd'hui par Valérie Guéret.
Dans sa parution du jour, le journal Le Quotidien parle du partenariat Burkina-Mali contre le terrorisme. Et notre confrère du journal Le Quotidien de constater en titre que les choses se précisent pour l'ultime combat commun. Après cette visite d'amitié de l'armée malienne au Burkina, Ibrahim veut convaincre les Burkinabés en organisant des rencontres tous azimuts au titre L'Express du Faso. Le président de la transition prend en témoin l'opinion nationale sur les réalités du pays. Aussi est-il encore nécessaire d'en appeler à la conscience collective pour véritablement faire face à cette crise sécuritaire dont les conséquences sur les autres secteurs socio-économiques ne sont plus à exposer, se questionne notre confrère de l'Express du Faso pour qui tout n'est donc pas perdu, mais à condition que dès à présent, les Burkinabés se lèvent comme un seul homme et disent non au terrorisme, non à l'envahissement de leur pays, non à l'insécurité, insiste l'Express du Faso. Pendant ce temps, Sidoya titre sur la désinformation l'autre ennemi. Pour ce doyen des quotidiens, des vidéos, des photos et des audios sont devenus viraux ces dernières semaines sur la toile au Burkina Faso. Il serait alors judicieux de renforcer les moyens matériels et techniques de la Brigade Centrale de Lutte contre la Cybercriminalité et d'autres connexes afin de freiner les élans malsains de ces oiseaux de mauvais augure qui polluent la toile de leurs cris d'or frais. Opine ce quotidien. À l'international, l'offensive du M23 en RDC, balai diplomatique noyé dans le fracas des armes, titre l'Observateur Palga. L'Obs pour qui? Le vieux volcan de l'insécurité dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo est de nouveau en ébullition. Depuis le mois de mai 2022, la rébellion du M23 a repris son offensive et les combats se rapprochent dangereusement de Goma, la capitale régionale, constate notre confrère de l'Obs qui s'interroge de savoir si le balai diplomatique en cours et le déploiement d'une force tampon pourront-ils sauver le Nord et la paix. Dans la même lancée, aujourd'hui, au Faso se questionne sur comment conjurer ce remake du pire il y a 10 ans. La RDC n'endort pas, le M23 poursuit une sorte de guerre éclair, drapée de revanche, constate ce canard qui conclut qu'en somme, la question du M23 réside dans l'acronyme DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion en tout état de cause, Tshisekedi a plus intérêt à calmer cette situation car à 9 mois de la présidentielle, les bruits des balles de Goma riment mal avec le petit froufrou du bulletin dans l'urne.
Revue de presse de Valérie Guéret avec qui nous vous disons à bientôt puisque ce journal se referme ici. Il a été mis en onde par Fidel Compaoré, retransmis sur notre page Facebook par Ibrahim Niaouné. Je suis Abdoul Fattah Tiemtouré et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Radio Omega. Prenez soin de vous, prenez surtout soin de vos proches.
Radio Omega, l'info en direct.